Bonjour aux auditeurs de Radio Grand Ciel, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Éric Lenut, je suis enseignant à Dreux. Je suis intervenu une première fois à la demande de la Société des Amis du Musée de Dreux qui collabore avec Radio Grand Ciel à cette série d'émissions Histoire et Mémoire. Nous avions précédemment abordé la question des déclarations de grossesse au XVIIIe siècle. Je vous propose de revisiter, comme on a coutume de dire, cette période, le XVIIIe siècle, et de vous parler aujourd'hui de la mise en nourrice et des nourrissons en région parisienne, et notamment dans un petit village d'Eure-et-Loir qui s'appelle Guinville. Vous allez me dire pourquoi Guinville? La situation de Guinville est particulière, elle avait été relevée déjà par Merlet, qui était l'archiviste départemental sous Napoléon III, et qui avait extrait des registres paroissiaux un certain nombre d'informations inquiétantes, ahurissantes concernant la mortalité des nourrissons. Et c'est sur ce chiffre que nous voudrions revenir. La question a été abordée par d'autres historiens depuis il n'y a pas si longtemps. Yves Legrand de la Société archéologique d'Eure-et-Loir en 2004 avait abordé la question de ces enfants disparus, décédés à Guinville. Et le fait divers, si on peut parler de fait divers, a été popularisé entre guillemets par Gérald de Massé dans son dernier ouvrage aux éditions de Boré, Les nouvelles affaires criminelles d'Eure-et-Loir. Alors de quoi s'agit-il? Revenons à nos registres paroissiaux. On peut tirer bien des enseignements de la fréquentation des registres paroissiaux, mais ils ne contiennent pas de faits plus cruels et plus inquiétants que ceux que nous allons décrire. La mise en nourrice dans ce village, et dans d'autres d'ailleurs, des alentours, atteint son paroxysme dans la seconde partie du XVIIIe siècle et se poursuit tout au long du XIXe. C'est le chiffre, bien sûr, anormalement élevé de mortalité des nourrissons qui avait attiré l'attention des lecteurs. Depuis longtemps, on trouve la présence dans les registres paroissiaux du XVIe, à Dreux ou dans les paroisses avoisinantes, de parents qui sont domiciliés dans les grandes îles françaises et qui placent leur enfant en nourrice à la campagne, et cette habitude n'a fait que s'amplifier au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Seuls, on peut dire, les foyers défavorisés des grandes villes, ceux-là même qui n'ont pas les moyens de payer des mois de nourrice, font exception à cette pratique. Malheureusement, il suffit de parcourir n'importe lequel de ces registres paroissiaux conservés dans nos communes pour trouver des mentions d'enfants de Paris morts en nourrice tout au long du XVIIIe siècle. Enfants de Paris, mais aussi enfants des villes petites ou grandes de l'ouest parisien, de l'Île-de-France, Saint-Germain-en-Laye, Étampes, Saint-Denis, Rambouillet, Mantes, Pontoise ou bien Versailles. Ils meurent en grand nombre et c'est par milliers que tous les ans, prêtres et vicaires de l'actuel département des Yvelines et de l'Eure-et-Loir les enregistrent en rédigeant leur acte de sépulture. Combien d'enfants étaient-ils chaque année à faire ainsi le déplacement de la ville vers la campagne? On ne le saura sans doute jamais, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que la grande majorité des enfants de Paris et des autres villes quittaient leurs parents aussitôt venus au monde. Et malheureusement, c'est en grand nombre également, c'est une véritable hécatombe qui se produisait, c'est en grand nombre que ces enfants décédaient. Alors, je vais vous présenter Guinville rapidement. Guinville, on connaît peut-être peu en Eure-et-Loir parce que c'est un village qui est complètement au nord. Rien ne différencie la paroisse de Guinville d'autres. Mais elle appartient au diocèse de Chartres, du doyenné de Mantes. Mais elle dépend administrativement de la généralité de Paris, de la sous-délégation de Dreux. Et si on pouvait dire quelque chose de Guinville, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir de particulier? C'est une géographie particulière, des vallées, des collines, mais un territoire communal paroissial d'un faible rendement agricole. Voilà, on pourra peut-être conserver cette information à l'esprit lorsqu'il conviendra de tirer des conclusions, si possible, de la situation particulière de Guinville. 150 feux, il faut comprendre 150 foyers, environ 400 à 450 habitants. Alors, on observe dans les années 1785 à 90, sur une période de 5 ans, une hécatombe, je crois qu'il faut être un petit peu plus précis, je ne vais pas vous forcer sur les chiffres, mais il faut dire qu'il y a plus de 600 nourrissons sont retrouvés décédés. Nous sommes parvenus à faire un décompte un petit peu plus précis, à savoir parmi ces 608 nourrissons, 544 qui sont des enfants trouvés, c'est-à-dire qui ont été placés par l'administration parisienne des enfants trouvés, et 68 seulement qui sont des enfants placés en nourrice par leurs parents. On essaiera d'expliquer tout à l'heure pourquoi cette distinction est importante et pourquoi la durée de vie est différente selon que l'on soit enfant trouvé ou enfant placé par ses parents. Donc la soudaineté et l'ampleur de cette hécatombe laissent pantois. Il est évident que l'hypothèse d'une épidémie n'est pas suffisante. S'il s'agissait d'une épidémie, on pourrait d'ores et déjà dire que les enfants de Guinville eux-mêmes vont être touchés. Non, il s'agit d'une surépidémie sur ces enfants qui sont placés en nourrice. Le phénomène est tellement important qu'on peut l'analyser, on peut le voir dans l'écriture des actes mêmes. D'ailleurs, ces actes sont assez incomplets et pas très respectueux finalement de la vie humaine. On oublie souvent de dire dans un premier temps que la nourrice bénéficie de ce qu'on appellerait aujourd'hui un agrément. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on recueille de moins en moins de précisions sur l'existence de ces petites vies qui s'achèvent au bout de quelques jours la plupart du temps. On connaît de moins en moins quel est le père ou le père nourricier ou la nourrice chez lesquels ils ont été placés. On apprend de moins en moins l'origine de l'enfant et parfois même son nom de famille. Petit à petit même, on s'aperçoit que les actes regroupent plusieurs enfants, ce qui nous permet même d'imaginer le pire, c'est que ces enfants sont enterrés dans des fosses communes. Il en meurt plusieurs par jour à Guinville. Cela s'est produit assez fréquemment. Donc des actes collectifs et peu à peu des remarques qui sont plutôt inquiétantes. Je vous cite par exemple fin 1786, le vicaire ou le curé de Guinville note qu'il est mort dans la commune des hommes, des garçons, 13 seulement, des femmes, des filles, 18, sur quoi il faut compter 15 nourrissons. Il ne compte bien entendu que 15 nourrissons originaires de parents de Guinville. Il oublie de dire qu'entre-temps, il a inhumé près de 150 enfants trouvés ou placés en nourrice. Cela donne une idée de l'ampleur du phénomène observé. Alors, essayons de comprendre ce qui se passait à Guinville et voyons comment s'organiser ce nourrissage, cette véritable, j'ouvre des guillemets pour dire, industrie du nourrissage. Il faut savoir que dans les villes, s'étaient mis en place, notamment à Paris, des bureaux de nourrice. Comment est-ce que cela fonctionnait ? La mise en nourrice presque systématique des enfants des villes avait amené le pouvoir royal à légiférer pour contrôler autant que faire se pouvait cette transhumance, un espèce d'immense trafic d'enfants. Il ne faut pas hésiter et parler de trafic d'enfants. La législation était ancienne, elle avait été revue en 1715 à la mort de Louis XIV et puis en 1769 on avait fondu 4 bureaux de recommandares, c'est comme ça qu'on appelait ces bureaux de placement. On les avait fondus en un seul et quelques années auparavant, également avant 69, en 61, plus tard en 70, avaient été établis des bureaux à Versailles-Saint-Germain-en-Laye. Comment devenait-on nourrice ? Qu'on habite Gilles, qu'on habite Guinville, comment est-ce que on pouvait accéder à ce statut ? Lorsqu'un couple de pauvres journaliers, parce que nous allons voir qu'il s'agissait souvent de pauvres gens, qu'on appelait aussi des manouvriers, décidait de prendre un enfant en nourrice pour arrondir ses fins de mois, il procédait de la manière suivante. La femme devait commencer par sevrer son dernier enfant, car les ordonnances lui interdisaient de nourrir 2 enfants à la fois. Tout cela semble bien réglementé. Quand il avait atteint 7 mois, l'âge requis par la loi, elle sevrait donc son enfant et demandait un certificat à son curé. Si son enfant était mort, elle pouvait évidemment, dès qu'elle était en position de ce certificat de sépulture, partir à la quête d'un nourrisson, car elle devait prendre garde que son lait ne se tarisse. Munie de son certificat et aussi d'une attestation de bonne vie et de bonne mœurs, délivrée par le curé de la paroisse de Guinville, elle se rendait au bureau des nourrices dans la voiture à cheval d'un meneur. Alors ce meneur, il est important, on le connaît, pour celui de Guinville, s'appelle Charles Bandu. Il est directement intéressé à cette mise en nourrissage. Il était agréé, chargé de transporter les nourrices d'un ou plusieurs villages, ou pourquoi pas plusieurs nourrices lors d'un même transport. C'est le meneur qui, tous les mois ou tous les trimestres, était requis pour retourner registre en main, aller rapporter le salaire de la nourrice, qui cette fois restait au village. C'est lui encore qui pouvait transmettre et donner des nouvelles aux parents, s'ils en demandaient, et qui transmettait des instructions que ceux-ci pouvaient vouloir donner à la nourrice à mesure de la croissance de l'enfant. Le meneur jouait donc un rôle important d'agent de liaison, tout en assurant le transport des personnes et des fonds. Arrivé à Paris, on peut imaginer comment se passait le marché, la passation du marché. Donc, ainsi véhiculée, la nourrice arrivait au bureau où elle exhibait ses certificats. Si ceci était en règle, elle n'avait qu'à attendre pour passer un marché de gré à gré avec un père en quête d'une nourrice pour son enfant qui venait de naître. Car l'enfant de la ville, aussitôt né, était baptisé et porté par le père ou par un représentant accrédité, membre de la famille, au bureau des nourrices pour y être placé. La mère qui venait d'accoucher ne voyait pour ainsi dire pas son enfant. Elle ne lui présentait pas le sein puisqu'il fallait éviter la montée de lait. Comment dans ces conditions pouvait-on imaginer d'ailleurs que le sentiment maternel, qui paraît manquer à beaucoup de ces mères, aurait pu se développer ? Alors c'est son enfant sur les bras que le père arrive au bureau des nourrices. Là, il lui faut choisir et surtout il lui faut débattre du prix. Comment choisir une bonne nourrice ? Quelle nourrice serait susceptible de donner les meilleurs soins à l'enfant ? Alors ce père, s'il avait de l'argent, il pouvait se montrer difficile. S'il était un petit peu cultivé, les écrits du temps lui donnaient les moyens de reconnaître infailliblement la mère qu'il fallait donner à son rejeton, la nourrice qu'il fallait donner à son rejeton. S'il était un petit peu cultivé, il allait être un petit peu difficile et choisir. La nourrice, une fois choisie, le père convenait du prix, faisait un premier versement, c'est important, et en même temps que l'enfant remettait à la mère nourricière du linge et du savon, la nourrice était informée qu'elle ne pouvait sevrer l'enfant que sur ordre express des parents. Si son lait venait à tarir, elle s'engageait, c'est la théorie du moins, à prévenir aussitôt les parents et à confier l'enfant à une autre nourrice en attendant leur décision. Alors la bonne nourrice, je ne résiste pas à vous livrer une description de 1784, ce que pouvait être une bonne nourrice en quelques mots. Un texte de 84 donc qui nous dit que la bonne constitution de son corps est une chose des plus essentielles. Donc il faut nécessairement qu'elle soit saine, d'une santé ferme et d'un bon tempérament, ni trop grasse, ni trop maigre. Ses mamelles doivent être entières, sans cicatrices, médiocrement fermes et charnues, assez amples pour contenir une suffisante quantité de lait, sans être néanmoins grosses avec excès. Les bouts des mamelles ne doivent pas être trop gros, ni durs, ni calleux, ni enfoncés. Il faut au contraire qu'ils soient un peu élevés, de grosseur et fermeté médiocre, bien percés de plusieurs trous afin que l'enfant n'ait pas trop de peine en les suçant et en pressant avec sa bouche. C'est presque terminé. Son lait ne doit pas être trop aqueux, ni trop épais. Il doit être très blanc, de couleur, de saveur douce et sucrée, sans aucun goût étranger à celui du lait. Enfin, outre les mœurs requises dans la nourrice, il faut qu'elle soit vigilante, sage, prudente, douce, joyeuse, gaie, sobre et modérée dans son penchant à l'amour. Bon, on va prolonger un petit peu, on le voit que notre bourgeois cherchait la perle des nourrices et qui plus est une nourrice qui soit sage. La dernière phrase est assez précise. Dans l'esprit du temps, on croyait que les relations sexuelles trop fréquentes et surtout trop ardentes risquaient de gâter la qualité du lait, voire de le tarir. D'ailleurs, comme un médecin était attaché au bureau des nourrices, le père avait le droit, le privilège éventuellement, de demander une visite médicale à la postulante et le droit de goûter le lait. Une fois le choix de la nourrice effectué, il s'agissait de revenir à Guinville. Lorsque les nourrices de Guinville qui étaient venues avec Charles Bondu et avaient tous trouvé un nourrisson, la voiture pouvait repartir vers le village, environ 90 km. On comprend aisément que ce voyage aller-retour pouvait présenter des risques. Ces déplacements avaient lieu par tous les temps. Il faut songer aux canicules ou à la rigueur des hivers, ceux de 709, ceux de 1740 ou bien d'autres, et on comprendra aisément que les nouveau-nés étaient mis à rude épreuve. Les textes précisaient bien pourtant que la voiture devait être bâchée, garnie de paille, mais on peut se demander si c'était bien suffisant pour mettre les occupants à l'abri des injures du climat. Mal protégés du froid, de la chaleur, passant de main en main, sans aucune hygiène, on n'en est pas encore à changer le nourrisson fréquemment, les nourrissons subissaient l'agression des conditions extérieures. Et les registres paroissiaux contiennent des mentions fréquentes d'enfants morts pendant le trajet et enterrés parfois dans le cimetière du premier village traversé. Ils sont nombreux à figurer comme ça dans les registres des paroisses sur la route royale de Versailles à Dreux, qui était la route de la Bretagne, et dans ceux des paroisses de la route de Saint-Germain à Mantes, qui était la route de la Normandie. Supposons que notre nourrisson arrive en bonne santé à Guinville, un certain nombre d'obligations étaient imposées au domicile des nourrices. Parmi ces obligations, elles étaient simples. Il s'agissait que la nourrice puisse attester qu'elle était propriétaire de deux instruments protecteurs, le berceau et le garde-feu. Le berceau, parce qu'il était formellement interdit de coucher l'enfant dans le lit des parents nourriciers, comme il était en général interdit de coucher tout enfant dans le lit de ses parents. De trop nombreux enfants, en effet, mouraient ainsi écrasés, suffoqués, et l'Église soupçonnait alors les parents d'infanticide. C'est ce qu'on appelait le crime d'oppression d'enfants. Pour couper court à tout soupçon, des lits séparés étaient exigés. De même, le garde-feu devait empêcher l'enfant de tomber dans la cheminée, un certain nombre de nourrices s'endormant devant le feu, le nourrisson sur les genoux, dans la douce tiédeur de l'âtre. Nous sommes à Guinville et nous pouvons nous demander légitimement qui sont ces nourrices. Nous sommes à la fin des années 1780. Ce sont des années qui sont difficiles. On y reviendra sur le plan économique. Les habitants de Guinville connaissent des difficultés. D'un autre côté, les parents des villes également. Il y a un afflux à l'hôpital d'enfants abandonnés. Et les nourrices sont essentiellement des femmes de conditions modestes qui envisagent par ce moyen d'améliorer, d'avoir un revenu de complément à des ressources qui sont déjà modestes. D'humbles manœuvriers de la campagne, des vignerons, il y en avait beaucoup à Guinville et le vin se vend mal et on peut même dire que c'est la fin de l'activité viticole qui se profile dans le futur département d'Eure-et-Loir. Des compagnons dans les petites villes, tous avaient besoin de gagner quelques livres au tournoi. La misère est si grande que l'on monte même des stratégies, c'est-à-dire que un enfant qui est mis en nourrice rapporte et un enfant, vos enfants qui sont à votre charge, eux ne rapportent pas. On s'est aperçu que certaines nourrices mettaient elles-mêmes leurs enfants en nourrice chez des femmes qui leur coûtaient moins cher que ce que leur rapportait l'indemnité qui leur était versée par l'hôpital général. Les nourrices avaient compris qu'elles pouvaient gagner un peu plus d'argent en jouant sur les différences de tarifs. Revenons plus précisément à cette hécatombe de Guinville à la fin des années 1780. Pourquoi parle-t-on d'hécatombe ? Parce que en comparant la série des chiffres de 1700, je reprends mes notes, 1786 à 1790 qui note 608 nourrissons décédés, on voit que pour les 5 années précédentes, simplement 38 nourrissons, dont seulement 2 ou 3 enfants trouvés, étaient décédés. On s'aperçoit qu'il y a un système qui semble être un système mortifère qui s'est mis en place. Alors ce système mortifère, on peut l'expliquer par le tableau pessimiste de la fin du XVIIIe siècle au plan économique. Les conditions extrêmes de cette période plongent une grande partie de la population dans la misère. Cela se traduit déjà par un accroissement considérable d'enfants trouvés. Alors malgré les ordonnances et les règlements qui interdisent d'aller déposer des enfants à Paris, le mouvement continue, il s'amplifie même. Théoriquement, les enfants trouvés devaient être déposés à l'hôpital le plus proche et sans doute pas arriver vers l'hôpital, affluer vers l'hôpital général des enfants trouvés à Paris, l'ancêtre de notre assistance publique. une explosion donc des abandons et la crise économique, elle, qui touche toujours les pays de vignobles, de la vallée de la Seine, de la vallée d'Eure et qui touche bien sûr le village de Guinville, voit se développer parallèlement un énorme trafic. Hein, je vous ai dit que le mot n'était pas trop fort et certaines paroisses deviennent des véritables paroisses mouroirs. Mieux que le récit, la lecture du registre paroissial est accablante. Il s'agit, on s'en aperçoit très rapidement, d'enfants trouvés qui sont ramenés de Paris par pleine charrette. Le curé de Guinville, on l'a vu, n'indique même pas leur numéro d'entrée à l'hôpital, et ce qui montre bien que les expéditions étaient fréquentes. Les nourrices de Guinville vont à Paris auprès du bureau pour faire une plus ample moisson. Il y a là plus de réglementations qui tiennent. Des veuves, des femmes âgées de plus de 50 ans et donc qui sont incapables d'allaiter prennent des nourrissons. L'hécatombe était beaucoup plus perceptible chez les enfants trouvés. Ils meurent en masse et portent en eux peut-être le signe de leur condition originelle. Ils meurent presque tous. On imagine qu'il existe très peu de survivants devant de tel nombre avec des âges aussi bas. On a calculé la moyenne des enfants de Guinville, elle ne dépasse pas 21 jours. Ils sont souvent mal nourris, on imagine, avec des succès d'années de lait maternel que sont le lait de vache, de la bouillie. Ils succombent vraisemblablement à cause de cette nourriture inadaptée, d'une hygiène déplorable. On ignore les règles élémentaires de l'hygiène. On connaît mal l'intérêt de la stérilisation, pour ne pas parler du nettoyage d'un biberon ou d'une tétine en 1786. Et à ce régime, bien peu d'enfants résistent. Et des études sérieuses qui ont été faites dans d'autres villes, à Rouen, à Reims, montre que quand même 90% de ces enfants placés mouraient avant d'atteindre leur premier anniversaire. On peut donc parler d'un infanticide généralisé, sans aller plus loin, qui se retrouve dans une paroisse voisine, celle de Rolboise, et d'autres paroisses dont je vous parlerai tout à l'heure dans les Yvelines. Est-ce qu'il faut stigmatiser l'indifférence, dénoncer la complicité des autorités ? Ça n'est pas sûr. La mort de l'enfant, elle est fréquente, elle est quasiment admise et elle choque peu au XVIIIe siècle. Celle d'un enfant abandonné, elle choque peut-être encore moins. Derrière l'enfant abandonné, il y a toujours la suspicion envers l'enfant illégitime. Et on pourrait très bien imaginer que la mort de l'enfant soit interprétée comme le châtiment des parents. En tout cas, aucun écho, aucune suite juridique ne nous est parvenue sur cette affaire des 608 enfants disparus de Guinville. Il est difficile d'imaginer que tous ces enfants soient morts uniquement par manque de soins. Il y a certainement eu effectivement des épidémies, mais comme nous l'avions dit au début tout à l'heure, on peut se demander pourquoi les enfants de Guinville, eux, seraient moins touchés, que la mortalité serait plus faible chez les enfants élevés par leurs parents. Alors, des médecins ont pu imaginer que certaines maisons étaient impropres et qu'elles étaient habitées par un certain nombre d'épidémies, comme la phtisie. Je ne donnerai pas les noms, parce que je ne sais pas qui habite encore à Guinville, un certain nombre de noms de ces nourrices, de ces foyers, mais c'est assez impressionnant. Ce sont des dizaines de nourrissons qui meurent dans certains foyers. Et si on fait l'addition des décès survenus dans 4 ou 5 familles nourricières de Guinville, on atteint quasiment 40% de l'effectif des enfants qui sont décédés. Voilà, au terme de cette émission, je voudrais quand même essayer de comprendre avec vous comment cette situation infanticide a pu se produire. Je me réfère à l'article d'Yves Legrand dans la Société archéologique de Réloir de 2004, déjà cité, pour utiliser une de ses expressions, c'est-à-dire la conjugaison des deux misères. Les deux misères, la misère c'est la neige, les inondations, les conditions climatiques qui ont entraîné une flambée des prix, du pain, des denrées et l'abandon massif des enfants auprès de l'hôpital. Général des enfants trouvés de Paris. Donc une masse d'enfants, j'ose dire un stock d'enfants disponibles. Donc certains qui viennent de la province, nous l'avons déjà dit, et on ne sait que faire à l'hôpital général de ces enfants. Par contre, là en face, nous avons aussi cette même population fragilisée qui peut envisager comme revenu d'appoint de pratiquer l'activité nourricière. C'est un appoint de ressources qu'apporte la prise des nourrissons. Et au mieux qu'à l'hôpital général, on peut trouver une fourniture aussi abondante, régulière, sans craindre la moindre rupture de stock. J'ai utilisé l'expression également tout à l'heure de nourrice mortifère. Je crois qu'il faut qu'on soit très clair également. Ces nourrices n'agissaient pas par générosité. elles agissaient par intérêt. De là à les soupçonner de finalement trouver un avantage à cette situation d'enfant qui meurt. Il faut savoir que la nourrice touchait le premier mois. Si l'enfant mourait pendant le voyage, le transport, rien n'empêchait, si le meneur était coopératif, de repartir quelques jours plus tard. L'afflux de ces nourrissons à l'hôpital général des enfants trouvés est tel qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on s'en débarrasse à bon compte. Comment l'administration de cette époque a pu ne pas comprendre, ne pas savoir ce qui se passait? L'épreuve du transport, ces nourrices nécessiteuses qui certainement n'entourent pas de tous les soins possibles les nourrissons, tout cela a pu conduire à une rotation accélérée des trajets, une rotation intéressée de la part de ces nourrices qui se rendaient à l'hôpital. Que dire de cette mise en nourrissage sous-traitée à des femmes qui étaient dans l'impossibilité d'allaiter? On trouve le cas à Guinville très souvent lors des inhumations. C'est une femme qui a 50 ans, chez qui vivent les enfants, on le précise. Ce qui laisse à penser qu'il y avait une nourrice qui, elle, avait, on dirait aujourd'hui, son agrément, qui pouvait récupérer les enfants, qui sous-traitait l'activité, qui les plaçait chez cette veuve de plus de 50 ans. Et partant de là, les enfants, bien sûr, n'étaient pas entourés de tous les soins, en tout cas, rien de ce qui était prévu contractuellement, à savoir l'allaitement. Alors, il s'agissait de la veuve Mulet qui déclare ne pas savoir signer et qui signe plusieurs, qui est présente à plusieurs dizaines d'inhumations. Là, on peut dire qu'elle est très très régulière, elle est souvent là aux inhumations. En conclusion, à la jointure du XVIIIe et du XIXe siècle, la Révolution aura le courage de prendre des positions sur ce problème du nourrissage mercenaire. Un décret de la Convention en 93 prescrira l'allaitement maternel et dira « Nulle mère ne peut s'affranchir de ce devoir que dans le cas où il y aura impossibilité ou danger dans cet allaitement pour la mère ou pour l'enfant. » C'est un décret généreux, c'est un vœu pieux, mais à cette époque, la fécondité et la natalité commencent à diminuer. Et comme la mortalité infantile commence à reculer aussi, il est de plus en plus normal de trouver moins de décès dans le registre civil. Et surtout, c'est un fait historique sans précédent, la révolution médicale du XXe siècle permettra désormais d'assurer dans la quasi-totalité la survie de l'enfant. Les mœurs, petit à petit, donc, se sont transformées, témoignant d'une véritable révolution qui laisse maintenant désormais l'enfant aux mains de ses parents pour son alimentation, son éducation. Le cas de Guinville, il n'est pas unique. Hein. Tout près, dans l'actuel département des Yvelines, je me réfère à l'article de Marcel Lachivert, paru en 1977 dans l'arrondissement de Mantes-la-Jolie. Il note par exemple 350 enfants trouvés à Méricourt, hein, 350 enfants décédés, 259 à Mousseau, 226 à Moisson et 30 à Rolleboise, hein, donc 4 villages qui sont sensiblement de l'importance de Guinville. Je remercie les auditeurs de Radio Grand Ciel qui ont eu la patience d'attendre jusqu'au bout la fin de cette émission, à écouter des choses qui effectivement peuvent choquer les cœurs les plus endurcis, et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine émission.